refermer bientôt ce dimanche derrière lui. Bienvenue à tous de la part de Françoise Cordet qui est l'âme de cette émission, de Monsieur X qui en est le corps invisible, de Georges Pagzinski qui a mis ses lunettes pour mieux entendre la douce nuit qui marche et de votre serviteur Al Gerber, il va de soi. L'histoire du piano jazz lu en diagonale, c'est tout de suite comme on dit à la télévision, c'est-à-dire plus tard, mais pas après la pub, cette fois après la petite histoire que voici. Je suis, aimait-il à répéter, le plus grand batteur du monde, c'est un fait. Il était préférable de ne pas le contredire, sur aucun point et sur celui-là en particulier. D'ailleurs, à quoi bon ? De son point de vue, qui était en quelque sorte celui des tambours eux-mêmes, celui du tambourinage en tant que compétence technique, aptitude artisanale, il fut en effet, et de loin, le plus grand de tous, avec une telle avance sur les autres qu'aujourd'hui encore, nul ne l'a rejoint, même si, depuis une vingtaine d'années, il peut sentir sur son cou le souffle de plusieurs poursuivants, en général d'ailleurs des spécialistes du jazz fusion, comme Dave Weckl, Omar Hakim ou Dennis Chambers. Par chance, il n'en a pas conscience, d'abord parce que rien, pas même l'émergence de Max Roach, Philly Joe Jones, Joe Morello, Elvin Jones, Tony Williams, Jack DeJohnette, ne l'avait préparé à envisager la simple éventualité d'une telle concurrence. Ensuite, parce que, grâce à Dieu, il avait quitté ce monde en 1987, juste au moment où la menace se précisait aux yeux de témoins plus impartiaux qu'il n'était capable de l'être. Quelques mois avant de célébrer son 70e anniversaire, un 1er avril, Bernard Buddy Rich est mort de complications cardiaques associées à une tumeur du cerveau, laissant à son confident et souffre-douleur préféré Mel Tormé le soin d'écrire ses mémoires, où l'on pourrait lire, noir sur blanc, mais aussi en long, en large et en travers, qu'il avait été le plus grand joueur de caisse musicale que la Terre ait porté. Et pourquoi pas, puisque c'était bel et bien, dans l'ordre des choses mesurables, un fait mesurable. Dans l'ordre des phénomènes qu'on observe, un fait observable. On pourra toujours ergoter et faire valoir qu'en art, le mystère commence là où le secours des sens devient insuffisant, là où l'arithmétique et la physique avouent leur impuissance. À la façon des faits réputés têtus, ce fait-là n'en demeurera pas moins. Buddy Rich, jusqu'à plus ample informé, est l'unique tambourinaire du jazz qui, ayant atteint des limites de virtuosité jugées inaccessibles avant et après lui, a encore trouvé le moyen de les franchir, crédibilisant a posteriori les plus folles légendes qui couraient à propos de ses extraordinaires dispositions. Ainsi a-t-on raconté qu'à l'âge de 18 mois, fils de saltimbanque, il s'empara d'une paire de baguettes au cours d'une répétition et, frappant les planches de la scène, accompagna l'orchestre avec une telle pertinence que le soir même, les musiciens poussèrent son père à l'installer devant une caisse claire sous le feu des projecteurs pendant le spectacle, ce qui valut à l'enfant prodige la première d'une suite ininterrompue d'ovations reçues par l'intéressé comme une chose naturelle. Commentaire d'un de ses biographes, il avait assimilé les principes du rythme et du tempo et à cet âge plus que tendre, son corps possédait déjà la coordination nécessaire à leur expression concrète. Une chose est certaine, ce monstre de technique, point de mire de toutes les méthodes et de toutes les pédagogies de niveau supérieur, n'a jamais délibérément, jamais consciemment travaillé le moindre rudiment, ni le moindre, ni le plus complexe. Il s'est toujours contenté d'absorber ce qu'il percevait. Et en ce domaine, son aptitude encore avait quelque chose de surhumain. Vous trouverez sans peine des dizaines et des dizaines de personnes dignes de foi pour raconter que lorsqu'un arrangeur comme Bill Holman soumettait un nouvel arrangement au Big Band de Buddy, celui qu'il fonda à la fin des années 60 et dirigea jusqu'à la veille de sa mort, le chef, assis dans la salle, le faisait interpréter une fois par ses hommes. Lorsque ceux-ci étaient arrivés au point d'orgue, non seulement il avait mémorisé en détail et à jamais toutes les péripéties et toutes les subtilités de la partition, mais il avait mis au point dans sa tête sa propre partie, décidé de l'emplacement et de la forme générale des breaks, envisagé pour tel ou tel passage une formule rythmique originale ou une combinaison sonore inattendue. Il fut en bref le genre de batteur qui en aucune occasion ne cogna comme un sourd. Au contraire, il entendait vite, il entendait loin, il entendait fin et surtout, il l'écoutait. Comme le dira le flûtiste et clarinettiste Sam Most, membre de son sextet au début des années 60, « Jamais il ne vous couvrait, jamais il ne se mettait en travers de ce qu'un soliste était en train de faire, fût-ce l'espace d'une seule mesure. » Et pourtant, ce musicien-là a non seulement envisagé, mais rêvé de laisser tomber la batterie de manière définitive, qui plus est. Et cela, non pas après sa première crise cardiaque en 1959 à l'âge de 42 ans, mais quelques années plus tôt, alors que grâce en particulier au Jazz at the Philharmonic de Norman Granz et à ses exploits quotidiens au sein du Big Band de Harry James, il se trouvait en pleine gloire, crainte et envié, au moins en quelque chose. Dans le cas de Philly Joe Jones, c'était ses roulements fin comme un froissement de papier de soie, envié par tous les batteurs en exercice, idole des fans américains, dans le cœur desquels il avait enfin, cela lui aurait pris plus de 15 ans, supplanté Gene Krupa. Mais un tel statut n'était pas assez beau pour lui. Ce qu'il voulait être, lui, c'était l'idole des foules, parce qu'étant enfant de la balle, il avait très tôt goûté au triomphe, parce qu'il avait vu le regard que les collégiennes en soquette blanche portaient sur Frank Sinatra, lorsque lui-même l'accompagnait au sein du Big Band de Tommy Dorsey au début de la décennie précédente, parce que lui, le mal embouché, le grossier personnage, l'homme violent, impossible à vivre, nourrissait un prodigieux besoin d'être aimé, ou plutôt vénéré. Et aussi parce qu'il était le genre de personnage qui, que son salaire soit d'un dollar ou d'un million de dollars, en dépensera toujours 2. Il s'était mis en tête d'être une vraie star populaire et non pas seulement un géant du jazz pour éponger ses dettes colossales et pour augmenter le volume de ses colossales dépenses. Il fut un temps où il ne possédait pas moins de 3 maisons, en plus de son appartement new-yorkais, et de 4 voitures, toutes de grand luxe. À part ça, il payait ses musiciens au lance-pierre et les grugeait de toutes les manières possibles. Ainsi, Bernard Buddy Rich, dans les premiers mois de 1956... fit-il annoncer à son de trompe qu'il renonçait au fût et au cymbale au profit de la danse et surtout de la chanson. En constatant qu'il n'existe dans sa discographie pas moins de 3 micro-sillons entièrement consacrés à ses talents de vocaliste, il y a un contresens qu'on ne doit pas commettre. À ses yeux, il ne s'agissait en aucun cas d'une récréation. Au contraire, il jouait là une partie de la plus haute importance dont son destin, à ses yeux, dépendait. Que se passa-t-il ? La critique, dans son ensemble, fit bon accueil à ces enregistrements-là. Quelqu'un l'a même jusqu'à écrire que, en tout cas, il surclassait des professionnels de la voix tels que Tony Bennett. Ce n'était pas rien. Seulement voilà, les foules n'ont pas suivi. Les admirateurs de l'instrumentiste s'en féliciteront. Il n'en reste pas moins qu'en perdant le crooner Buddy Rich, lequel mettra en 1960 un terme à sa nouvelle carrière, ce n'est pas de loin le pire représentant du genre que nous avons vu faire sa valise. The bird with feathers of blue is waiting just for you. Back in your own backyard.
You'll see your castles in Spain through your own window pane.
When you're back in your own backyard, oh, you can go to the east, you can go to the west, but someday you'll come weary at heart, back where you started from. You'll find your happiness lies right under your eyes, back in your back where you started from. You'll find your happiness lies right under your eyes, back in your own bag.
Tout à l'heure, vous entendiez Buddy Rich dans un morceau de sa composition et qui porte un titre qui fut son surnom, en tout cas aux États-Unis, le Monstre, The Monster, une partie d'un solo de batterie très long au sein d'une face, d'une plage, pardon, qui elle-même a une certaine durée, plus de 10 minutes. Et tout de suite, c'était Buddy Rich, le chanteur. Nous étions en 1959 et comme avant lui, Billie Holiday, Frank Sinatra et tant d'autres, il interprétait « Back in your own backyard ». Alors, mon cher Georges,
mais alors,
vous avez préparé encore des surprises, c'est ça si j'ai bien compris. Je vous ai vu magouiller tout à l'heure dans les profondeurs du bocal.
Non, mais écoutez, Alain, il m'est impossible de ne pas évoquer, vous avez évoqué Buddy Rich, une photo. Vous évoquez The Monster. Vous vous souvenez du 33 tours que l'on ouvrait, ou qui s'appelait, le disque s'appelait The Monster? Il y a une énorme photo de Buddy Rich, non pas en action, mais que l'on voit de dos. Et le dos immense, immense, regroupé, on a l'impression qu'il est entouré la batterie avec tout son corps. On le voit de dos et on le voit silencieux. Bien, imaginez-vous, mon cher Alain, que je vais vous emmener dans le silence.
Mais il entourait la... Vous avez tout à fait raison, il donnait l'impression d'entourer la batterie lorsqu'il était dans une phase d'inaction. Parce qu'au contraire, dès qu'il se mettait à jouer, son corps prenait une stature extrêmement droite. Et ouais. On avait l'impression qu'il s'allongeait, hein, qu'il s'étirait vers le haut. C'était très, très... Ce personnage en paraissait même parfois mince. Hein. Ah. Moi, je me souviens des premiers concerts où j'ai eu l'occasion de le voir à la fin des années 60 à Paris. Ouais. C'était tout à fait cette impression qu'il donnait.
Ah oui. Alors écoutez, là, il faudrait continuer cette émission sur Buddy Rich. Mais ce n'est pas ce que nous avions convenu. Alors malheureusement,
oui,
j'aurais souhaité...
On n'a plus de munitions pour alimenter. Ben, il faut bien le dire.
Alors je vais vous emmener
ailleurs. De repasser en boucle The Monster.
Alors je vais vous emmener ailleurs. Après le trio de Bill Evans, après la maîtrise sans effort de Kenny Werner, après l'art du toucher avec Enrico Pieranunzi, après l'art de la résonance avec Fred Hirsch, eh bien écoutez, d'une façon tout naturelle, après la résonance, qu'est-ce qui reste? L'art du silence. Et aujourd'hui, vous vous souvenez peut-être de cette publicité. Il y avait une publicité à la télévision. Vous aviez plein de publicités. Tout à coup, silence. À droite de l'écran, il y avait une pelote de laine qui apparaissait doucement, doucement, et qui tournait sur elle-même lentement, lentement, et qui mettait, je ne sais pas, dit, peut-être une minute à traverser l'écran de droite à gauche. Et à la fin, la pelote disparaissait et on entendait cette minute de silence vous est offerte par Hélène et il y avait la marque de Hélène en question. J'étais subjugué, Alain, par cette publicité qui avait fait mouche, je peux vous le dire, toutes les autres étant bien entendu extraordinairement agitées et bruyantes. Alors aujourd'hui, le silence, bien, le silence, c'est, il peut y avoir un silence prudent, on dit que le silence est d'or, mais il y a un silence complice, il y a un silence qui protège, on s'enferme aussi dans le silence. Le silence, c'est une arme, ça peut être aussi une persécution, ça peut être un mensonge, c'est aussi parfois le dédain, c'est parfois un froid silence, et puis parfois ça peut manifester le mépris. Il y a le silence et le néant, le silence et le temps qui dure, le silence et le temps figé, le silence et les ténèbres. À chaque fois, je pourrais vous dire qu'on peut faire une émission complète sur ça. À chaque fois que je viens de dire une phrase, vous voyez, on pourrait faire passer une année entière sur chacune de ces phrases que je viens d'énoncer. Sur le silence et la nuit, le silence et les richesses, le silence et l'angoisse, le silence et l'inconnu, le silence et le recueillement, le silence et la quiétude. Alors, cela étant dit, je vous emmène le 9 novembre 1938, c'est une date qui, je suis sûr, est un morceau que vous connaissez très très bien. Je pense, Alain, que c'est un morceau que vous connaissez très très bien, n'est-ce pas ?
Oh, et depuis fort longtemps.
Je n'en doute pas.
Et néanmoins, vous savez, dans le blindfold test, c'est toujours comme ça.
Oui.
Bon, on on se pose un certain nombre de questions. Et je dois dire que ce n'est pas le nom du pianiste qui m'est venu immédiatement, mais alors, à la première mesure, celui du guitariste. Alors, on ne peut pas se tromper.
Évidemment.
Freddie Green. Hein.
Bien
Pourtant,
sûr.
Freddie Green ne fait que de jouer des accords, dont on peut supposer d'ailleurs que ce ne sont pas des accords qui lui sont particulièrement personnels.
Non, absolument. Hein,
mais néanmoins, bon, il pose les choses, il pose le décor d'une façon absolument magnifique, et puis Bézi intervient. Ouais. Et ce qui est merveilleux chez Bézi, c'est que c'est quelqu'un qui, pendant toute une partie de sa carrière, c'était pas, d'après les documents que nous possédons, tout à fait le cas au début, lorsqu'il était le deuxième pianiste de Benny Moten.
Ouais.
C'est quelqu'un qui a passé son temps à faire des trous.
Ouais.
Mais le génie de Bézi, c'est de faire des trous sans faire de la dentelle.
Voilà, alors, hein, oui.
Parce qu'il n'y a rien de mièvre là-dedans.
Il n'y a rien de mièvre là-dedans, évidemment. Et en fait, ces trous que vous évoquez suggèrent tout le temps quelque chose. Et ces trous sont évidemment habités. Alors, on peut presque dire que faire simple, selon le fameux un morceau que Red Mitchell avait écrit, où il chante, où il joue le piano, le contrebassiste Red Mitchell chante et joue du piano sans jouer du tout de contrebasse. Il y avait un morceau qui s'appelait « Simple is not easy ». Et simple, ce n'est pas facile. Et en fait, là, c'est d'une sobriété, d'une simplicité apparente. La rythmique pulse d'une manière magnifique derrière. Joe Jones, qu'il faut bien sûr mentionner. Walter Page. Et ce qui me frappe surtout, c'est l'idée de suggestion. Vous voyez, c'est peut-être une des premières fois dans l'histoire du jazz, peut-être que vous le savez mieux que moi, Alain, mais une des premières fois où l'on entend une note qui suggère. Il y a la résonance, il y a la note que l'on joue, la résonance de la note, et après le silence qui prolonge et le son et la résonance.
Oui, parce que quand, si vous jouez dans le vide, ce qui ne donnerait pas du tout la même
impression,
vous n'êtes pas dans le cas de figure qui nous intéresse maintenant et qui est celui d'un musicien qui pose les choses dans l'espace.
Cet espace n'existe pas,
oui. Mais il le définit justement par le silence. Et en écoutant ça, je pense à une vieille publicité, je ne me souviens plus pour quelle compagnie phonographique, que vous connaissez certainement comme moi. Elle avait un slogan qui était Next sound to the silence.
Ah,
et là,
oui.
On a l'impression d'entendre un silence qui est next to the sound.
Ah, en effet.
Hein? Parce que c'est un silence habité.
Un silence habité. Vous vous souvenez comment Bézi opérait quand il était en concert? L'orchestre démarrait, et puis après, lui, il rentrait, ça dépendait. Des fois, il attendait un peu avant de rentrer sur scène, et parfois, il n'y avait que la rythmique qui jouait d'abord. Et il s'asseyait au piano, et l'orchestre était silencieux. Et puis tout à coup, il attendait la grille, une première grille, une deuxième grille, puis il laissait tourner la rythmique.
Mais là, il trichait parce qu'il remplissait par ses mimiques.
Alors,
par son sourire.
Oui, c'est vrai, par
donc
son sourire.
Donc il y avait une présence qui
voilà.
était là, et qui dit présence voilà. dit l'espace qui est
mais,
autour de cette présence.
Voilà, mais la présence, mais silencieuse sur le plan musical.
Absolument. Pas
oui. Et là, de temps en temps, il mettait quelques notes, et en mettant ces quelques notes, on se demandait pourquoi il faisait ça. En réalité, il écoutait la rythmique pour savoir si elle était vraiment soudée. Et quand c'était vraiment soudé, qu'il estimait que là, il pouvait, pardonnez-moi l'expression, lancer la purée de l'orchestre, vous voyez, parce que c'était ça. Hop, il y avait une petite note, deux, trois notes. Et là, il faisait un tout petit geste. Et là, l'orchestre explosait d'une façon superbe. Il y avait évidemment là, hurlement dans la salle, que vous pouvez imaginer. Maintenant, je vous propose un autre enregistrement, Alain. Nous sommes quelques années plus tard, le 24 décembre 1954, et j'ai pris le morceau en plein milieu. Vous me le pardonnerez, c'est une exception.
Mais vous
genre hors de
vous
ça.
Vous dites 24 décembre 1954, tout le monde sait ce qui a eu lieu le 24.
Oui,
enfin, tout le monde,
enfin,
moi, moi-même, mon frère, et des gens du même acabit. Hein.
Oui, écoutez,
mais bon, un certain nombre d'amateurs de jazz savent, disons, qu'il s'est passé quelque chose d'historique ce jour-là.
Oui, mais peut-être que tout à l'heure. Je vous poserai une question. Savez-vous ce qui s'est passé le 23 décembre 54?
Je ne me souviens pas, mais je sais que le héros de l'histoire était justement, ou pas lui, peut-être la rythmique. Enfin, un certain nombre de musiciens étaient déjà sur un gros coup ce jour-là. Je me souviens de ça.
Bon, en tout cas, écoutez, je vous fais enrager, pardonnez-moi. Nous sommes le 24 décembre 54, en plein milieu d'un morceau. Et je pense, vraiment Alain, vous le savez comme moi, que c'est peut-être le silence le plus célèbre de l'histoire du jazz.
Mmh.
Bien sûr, Alain, vous avez bien deviné que nous sommes dans le fameux The Man I Love et qu'il y a Miles Davis, Mel Jackson auparavant, Thelonious Monk, Percy, Kenny Clarke.
Oui, pardon pour la trivialité, mais je pense qu'il faut dire à nos jeunes auditeurs, parce que c'est quand même une plaisanterie qui aura bientôt un demi-siècle, qu'à l'époque où... qui a un demi-siècle.
Mais
à l'époque où ce disque est sorti, les chroniqueurs français parlaient finement du trou de Monk.
Ah oui, en effet, en effet. Alors que s'est-il passé? Enfin, n'épilonguons pas là-dessus, mais simplement, Miles explique dans ses mémoires, il dit « Je lui ai dit à Thelonious de rester en retrait pendant que je jouais, le voicing de sa grille me mettant mal à l'aise. J'étais le seul souffleur de la séance, je voulais entendre la section rythmique tourner sans piano, je voulais de l'espace dans la musique, je commençais tout juste à appliquer dans les compositions et les arrangements le concept de respiration spatiale que j'avais emprunté à Ahmad Jamal, et on a même enregistré un thème qu'il jouait et que j'adorais, The Man I Love. » Or, le Man I Love en question, que se passe-t-il? Monk étire tellement la mélodie, en accord dans les deux premières de ses 64 mesures A, B, A, qu'à 4 mesures avant la fin du deuxième A, il se perd dans la grille et décide alors de se taire afin de pouvoir repérer où en est Percy, le contrebassiste, et Percy et Kenny continuent seuls à jouer. Et en fait, le problème, c'est que Monk, n'arrivant pas à sortir de l'impasse en question, mais Miles intervient à la 7e mesure du pont sur l'accord G7 pour indiquer au piano l'endroit de la grille. Voilà. Enfin, voilà l'histoire.
Oui, mais vous savez que moi, j'élève une objection contre cette interprétation des faits.
J'en
étais
sûr.
Parce qu'il se trouve que cette prise est la deuxième.
Oui.
Et dans la première, Monk ne manifeste aucune méconnaissance de la grille en question.
Oui.
Alors, comment est-il possible que 5 minutes après, il ait pu brusquement oublier une progression harmonique qui n'a rien en plus de mystérieux.
C'est-à-dire qu'en fait, il étire tellement les accords que le temps passe de telle manière. Il place ses accords et la mélodie, il l'anticipe, il la retarde, il anticipe tellement qu'à un moment, le 1 disparaît. Il ne sait plus où il en est. C'est-à-dire vraiment, il étire terrible, prend des risques extraordinaires que dans l'autre version, il se garde bien de prendre.
Non, mais moi, j'ai tendance à penser que c'est aussi une leçon à Miles. Si tu veux de l'espace? Tu en auras.
Tu vas en avoir. C'est vrai aussi. Maintenant, mon expression n'est pas la bonne, là. C'est pas un silence.
Non, c'est tout à fait autre chose.
C'est une absence, en fait, on peut dire. Tout simplement, une absence. C'est-à-dire qu'en fait, il a un moment, hop, il joue, il étire, il tire, puis... Ah, puis,
mais ça reste sur, ce qui est magnifique, ça reste sur quelque chose de suspendu.
De suspendu, absolument.
Mais il reprend, hein, au moment où il renoue exactement le fil de son dialogue, au moment où Miles donne l'impression de le rappeler avec son petit tadari tadari.
Voilà, il le rappelle, il dit voilà où on en est. Et bon, voilà. Alors, ça, si vous voulez, c'est un peu tout ce que nous évoquons jusqu'à présent. C'est un peu le côté anecdotique de ça, l'absence. Bézi qui commence à tâter le terrain sur le silence et l'espace, Monk qui fait ça en 54, disons, les dés sont jetés, puisque Miles évoque, Ahmad Jamal m'a inspiré. Alors je vous propose, nous sommes maintenant plus tard à l'Alhambra, en juin 1961.
C'est d'ailleurs très curieux, à propos du silence justement, qu'il ne dise pas ça de Monk, qu'il fréquentait intimement depuis bien plus longtemps que Jamal. Du reste, il n'a jamais été un des familiers de Jamal, il était un de ses admirateurs, ce qui est autre chose.
Oui.
Alors qu'avec Monk, dans les mémoires que vous citez, Miles raconte notamment comment soir après soir, il essayait de jouer Round Midnight, et l'autre lui disait toujours « c'est pas ça », en faisant la gueule. Jusqu'au jour, il lui a dit « Ah, ça y est, ce coup-ci, tu y es arrivé. »
T'es arrivé. Là, il faut dire que nous allons aller vers quelque chose qui est vraiment d'immense qualité. C'est d'une façon totalement arbitraire que j'ai choisi le morceau. Parce qu'il faudrait choisir énormément, il faudrait passer toute l'œuvre d'Ahmad Jamal de cette période avec Israel Crosby et Vernel Fournier. Vous connaissez l'œuvre par cœur, Alain. Alors, j'ai choisi quand même quelque chose qui puisse me faire plaisir d'une façon totalement égoïste, je vous l'avoue. Parce que...
C'est souvent comme ça qu'on fait plaisir aux autres. Hein. C'est l'intérêt de la chose.
Ça, c'est très agréable et très gentil à vous. Là, il y a un Vernel. Un Vernel absolument sublime. Il y a des nuances dans ce morceau. Ouais, je ne devrais pas dire ça avant que nos auditeurs l'écoutent. Mais il y a des nuances magnifiques. Il y a des mises en place superbes. Le morceau n'est pas long. Mais il y a absolument un résumé vraiment parfait de cette cohérence dont Keith Jarrett disait que son trio avec Jack DeJohnette et Gary Peacock, n'arrive pas encore complètement au niveau de celui d'Ama Jamal.
En plus, voyez-vous,
parce que franchement, c'est extraordinaire.
C'est très intéressant. On dit toujours que pour un morceau particulier et aussi pour une formation singulière, oui, il n'y a qu'un bon tempo et un seul.
Un seul.
Et là, ils en ont trouvé un qui est tout à fait extraordinaire parce qu'il est juste un peu en dessous, oui, du tempo que la plupart des gens emploient naturellement pour jouer ce morceau-là.
Alors, vous savez, là, il y a quelque chose qui fait absolument ce que vous dites profondément vrai.
Et ça doit être donc difficile dans sa tête de maintenir un tempo comme ça parce qu'on pense toujours au tempo qui est habituellement utilisé.
Bien entendu. Il y a là un espace extraordinaire. Et la musique flotte. Et souvenez-vous de cette image.
Elle flotte
Kenny.
Et en même temps, il retient les chevaux. Alors, le trio retient les chevaux tout
alors,
le temps.
Voilà, alors, vous vous souvenez, Kenny avait une image magnifique. Kenny Clark avait une image magnifique. Justement, Kenny qu'on a entendu tout à l'heure. Je ne l'ai pas fait exprès, alors. Mais une image magnifique qui disait « Le swing, la musique et le rôle de la batterie et de la rythmique, c'est l'ancre qui est plongée dans la mer et qui retient un voilier qui navigue un peu au-dessus, un peu à droite, un peu à gauche, un peu sur le côté. Et là, il y a quelque chose d'ineffable complètement, et qui en même temps est ancré dans la terre. Vous voyez, et c'est pas comme ça que ça se passe, ça flotte pas comme ça. Il faut qu'il y ait un ancrage extraordinairement solide pour donner l'impression d'espace et finalement de provoquer chez l'auditeur une imagination folle. Et c'est ça qui est extraordinaire dans l'art du silence, c'est cette imagination que l'auditeur peut donner, une imagination personnelle qui est l'imagination de sa propre conscience, et il peut s'identifier pleinement à la musique.
Cela dit, le génie d'Elvin Jones sera aussi de désancrer et de faire tanguer le navire quand il ne tangue pas assez.
C'est très juste Alain. Je vous propose, en revanche maintenant, donc je vous propose ce morceau que vous connaissez par cœur, c'est « The Party's Over ».
Ah oui, ça c'est un des plus beaux.
Merci.
Thank you.
grand public, la fête est finie, the party's over, le trio historique d'Ahmad Jamal avec Israel Crosby et Vernel Fournier, je suppose au début des années 60, vous
l'avez peut-être 1961, juin 1961.
Oui. Voilà. Alors, je pense qu'on peut... D'abord, on peut dire que ce style de piano, de toute évidence, se situe dans le prolongement de la manière adoptée par Count Basie.
Absolument,
tout à l'heure,
oui.
Avec quelque chose d'autre qui est de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler de l'Errol Garner décanté.
Hein, parce j'aime que, bien votre formule.
Chez Errol
oui.
Garner, il y a toujours eu une certaine effusion. Bon, oui. Là, c'est... Et en ce qui concerne la retenue, je pense que nos auditeurs se seront fait la réflexion que cette retenue était admirablement exprimée par le jeu de cymbales de Fournier. Pourquoi ? Parce qu'il utilise une cymbale cloutée. Or, une cymbale cloutée, où on ne retient pas ses coups, et c'est épouvantable parce que ça sature, où on les retient et c'est étouffé, c'est pas beau non plus.
Absolument.
Et il arrive à la faire sonner tout en jouant, je ne sais pas, il doit jouer à 2 cm, 2 cm et demi de la cymbale.
C'est sublime, vraiment.
Donc il y a un exemple là de contrôle dans des conditions matérielles extraordinairement difficiles qu'il faut souligner.
Alors vous venez de dire le mot que j'avais en tête, c'est le mot contrôle. Il faut arriver à maîtriser et à contrôler quelque chose qui est quasiment de l'ordre de l'impossibilité du contrôle. C'est, il faut contrôler le toucher, nous en avions parlé dans l'émission précédente, de préparer le geste, de jouer le son, après de laisser la résonance, comme on avait évoqué, et après de laisser le temps faire son temps, c'est-à-dire accepter de ne pas intervenir. Ça, c'est, et que cette non-intervention signifie quelque chose, est une non-intervention qui intervient. C'est là où ça devient quelque chose
une
de
non-intervention qui soit un acte
qui
musical.
Soit un acte musical. Alors, quand on en arrive là, ça veut dire qu'on a une maîtrise absolue de son instrument et qu'on a une maîtrise absolue du temps intérieur. Et que ce temps, qui n'est, comme nous l'avions dit précédemment, n'est pas le temps de l'auditeur. Le temps de celui qui joue n'est pas celui le temps de celui qui écoute, mais il y a intérieurement un travail énorme pour d'abord être totalement détendu pour jouer les choses, totalement présent, parce qu'il y a une notion de présence aussi qu'il faut. C'est ça qui est... Vous évoquez la présence de Basie, c'est très juste, mais physiquement il est là. Vous évoquiez Buddy Rich tout à l'heure sur le plan de la batterie, physiquement il est là, il ne se passe rien, et en même temps, il se passe absolument tout. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne peut pas apprendre, pratiquement. Vous voyez, c'est là. Ou alors, il faut avoir une qualité de perception, et une qualité de volonté, de communication, de quelque chose de très intime, et surtout de maîtrise du clavier. Il faut une maîtrise du clavier, une maîtrise des baguettes, absolument.
Il est difficile d'attendre ça aujourd'hui des musiciens parce que, en grande partie, il faut bien le dire, cette attitude était liée à une consommation du jazz par le spectacle. On allait voir les gens.
Oui, en effet.
Et les gens se produisaient dans les salles de concert, dans les clubs, dans les dancing, etc. Et toute cette mise en scène de soi-même face à l'espace faisait tout simplement partie du jeu de scène des musiciens et ils étaient quasiment obligés d'en avoir un.
Absolument. Une petite anecdote. Lucien Guitry, vous vous souvenez, Alain ? Il y a un spectateur qui vient le voir et qui le félicite. « Oh, quand vous dites le texte, monsieur Guitry, vous êtes merveilleux. Mais c'est dans les silences que vous êtes particulièrement admirable. » Guitry répondit... C'est parce que les silences sont de moi. J'imagine que j'étais sûr que ça vous plairait. Alors maintenant, on va changer de registre. On reste toujours dans le piano, bien sûr. Après Basie, après Monk, après Ahmad Jamal. Disons-le, un musicien maudit.
Alors,
j'ai dit maudit Alain et je vois
que hors micro. Je ne sais pas parce que moi j'ai l'impression d'avoir reconnu Paul Blais. Mais
bravo,
peut-être.
Bravo.
Alors je vous demande pourquoi Paul Blais maudit, parce que j'aurais pas employé spontanément cet adjectif à son propos.
Écoutez, c'est un homme qui n'arrive pas à trouver des musiciens avec lesquels jouer maintenant depuis bon nombre d'années.
Il a pas besoin, il est très bien en solo.
Voilà, mais alors le problème, vous avez raison.
Ou alors avec un contrebassiste.
Oui,
aussi,
non mais en solo.
En duo avec un contrebassiste.
Je l'ai vu en solo Alain. C'était dramatique, non pas pour ce que nous entendions, qui était magnifique, mais il était en première partie sous un chapiteau à Aix-en-Provence. Et il était en première partie, je crois que c'était Don Cherry, je crois, après. Voyez, ça a été, il y a bon nombre d'années déjà, mais c'était la catastrophe, vous comprenez. Personne n'écoutait. Il y avait les gens bougeaient, se déplaçaient, c'était vraiment invraisemblable, quoi. Et l'homme arrivait, plaçait des choses comme celles que l'on vient d'entendre. Et puis, comme il le disait dans une interview, donc il n'arrive pas à trouver, personne ne veut jouer avec lui. Personne. Alors, il joue tout seul. Vous comprenez? Tout seul. Alors là, ça nous entraîne vers la notion de, évidemment, de ce...
Parce cela dit, hein, il a fait quand même bon nombre de disques en trio.
Bien,
hein, sur Steeplechase, il y en a une collection.
Mais des disques magnifiques, qui sont des disques avant la lettre de Keith Jarrett Trio, de Bill Evans Trio, même des disques magnifiques.
Mais là, vous parlez des années 60.
Des années
moi, je vous parlais depuis ce qu'il a pu faire au cours des 20 dernières années.
Ah oui, non, mais j'ai surtout des disques avec Pete LaRocca,
ou
disques magnifiques avec Gary Peacock en trio, qui sont avec Barry Altschul, des choses d'une modernité folle qui est aujourd'hui. Mais voilà, un homme qui me fait évoquer le silence d'avant et le silence d'après. Ça, c'est une phrase qui m'avait beaucoup apporté. C'est Yankelevitch qui disait ça. Il évoquait l'oubli, qui est une espèce de silence.
Lui-même pianiste, hein, il faut
lui-même
le préciser.
Lui-même pianiste, absolument. Et peut-être trop intellectuel. Maintenant, quand je relis ses écrits, j'ai parfois un peu de mal. Et en même temps, il a des phrases tout à fait saisissantes. Il dit, par exemple, la musique est une espèce de silence. Finalement, c'est vrai. C'est-à-dire que le silence n'est pas l'absence de notes. Et là, on commence à toucher les choses, à mon avis, beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus fondamentales, qui font que ce n'est pas quand il n'y a rien que le silence compte. Il y a un autre type de silence, une autre définition du silence qui apparaît quand on joue des notes. Et c'est une sorte de silence intérieur qui s'installe en écoutant la musique. Et là, il y a tout à fait autre chose qui rentre en ligne de compte et qui, moi, me touche beaucoup. Parce que c'est quelque chose qui est encore au-dessus, vous voyez, quelque chose qui est comme, comment dire, qui nous envahit un peu, qui nous pénètre, par quel port on l'ignore.
Mais on peut faire remarquer aussi, si l'on tient absolument à enfoncer quelques portes ouvertes, que la musique, plus tonitruante elle est, plus elle impose silence au monde.
Alors voilà.
Hein, c'est aussi une façon de se couper d'un certain nombre de bruits, de rumeurs, de parasites.
Tout à fait. Alors maintenant, je vais vous emmener le 23 décembre 54, que nous évoquions tout à l'heure, juste le début d'un morceau sans commentaire, juste le début. Étions le 23 décembre 54, excusez-moi Alain de couper aussi brutalement, et maintenant nous sommes 45 ans plus tard, le 12 ou le 15 janvier 1999.
Thank you.
avons passé 45 ans entre ces deux morceaux. John Lewis, vous l'avez bien entendu deviné. Première version, Modern Jazz Quartet, 23 décembre 54. Deuxième version, un homme qui a, quel âge ? 79 ans, devant son piano, seul, le 12 ou 15 janvier 99. 44 ans en fait, bon mais 45 ans en fait, au bout du compte. Un hommage à Django Reinhardt. Et on assiste à une métamorphose de ce morceau. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, qui m'a bouleversé quand j'ai écouté pour la première fois cette seconde version, la première nous la connaissions depuis notre, j'allais dire, notre enfance, mais celle-là, c'est cette extraordinaire différence qu'il y a, un contraste saisissant entre la partie de main gauche qui joue un tango, vous imaginez un tango, une danse. Ces notes que j'ai relevées d'ailleurs, il y a fa, do, ré bémol, do, croche, et puis la mélodie, la bémol, sol, fa, mi bécard, fa, ré bémol, et il y en a un pam, pim, pam, un silence, une mesure entière de silence, et à nouveau, pam, pim, pam. Donc on entend des croches, que j'ai mal chanté la deuxième fois, et la mélodie qui est là. Donc un contraste entre une main gauche qui marque des notes, qui s'arrête, et une main droite sublime, sublime.
Mais il y a néanmoins, entre ces deux mains, une complicité paradoxale. Pourquoi paradoxale ? Parce que, en tout cas c'est comme ça que je l'entends, on n'arrive jamais à savoir, dans ce dialogue, quelle main interroge l'autre. Hein ? C'est-à-dire que c'est un dialogue où il n'y a pas de réponse. Aucune des deux mains ne répond. Toutes deux ont des formules interrogatives. C'est ça qui donne d'ailleurs ce caractère assez pesant, c'est qu'on a l'impression que de ce suspense, nous ne sortirons pas.
Alors, imaginez-vous que j'ai trouvé la réponse, peut-être, à cette très justement vue par vous, de ces deux discours qui sont fondamentalement liés, mais un qui dit une chose, l'autre qui dure et l'autre qui arrête. Et finalement, j'ai trouvé la réponse dans les entretiens de Furtwängler. Furtwängler, un immense chef d'orchestre, peut-être, notre ami Georges Plaudemarrer dirait que c'est peut-être le plus grand chef d'orchestre de toute l'histoire de la musique, parce que vraiment, on est au-dessus de la mêlée, presque là. Il disait dans ses entretiens, ramené sur le plan de l'art, cela signifie que toute œuvre a deux versants, l'un du côté du temps, l'autre du côté de l'éternité. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez le temps et vous avez quelque chose qui n'est plus le temps. Et ces deux choses, finalement, au bout du compte, se conjuguent. Et il dit que l'artiste, enfin, il nous dit, voilà, nous pouvons dire, toujours Furtwängler qui parle, à tout instant, l'homme change et fait peau neuve. Le rôle de l'artiste, c'est de le représenter versatile, dépendant, mortel, ébranlé de toutes parts. Mais il faut tout de suite ajouter, poursuit Furtwängler, l'homme est inchangé depuis les origines. Le devoir de l'artiste, c'est de le représenter essentiel, unique, éternel, jamais entamé. Je crois que là, il y a quelque chose de tout à fait capital. Quand on touche ces cordes-là, je crois qu'on est aux limites de la communication avec l'autre, où les mots n'interviennent plus, les notes n'interviennent plus, et où il y a autre chose qui se passe entre, j'allais dire, deux êtres qui s'aiment, ou deux musiciens qui adorent jouer ensemble, ou les gens qui sont devant vous vont avec les musiciens quelque part qui est ce silence qui nous permet d'entendre finalement une autre voix, une autre langue, une sorte de voix venue d'ailleurs. Voilà un peu l'image que j'ai.
Cela dit, pour en revenir à ces deux textes musicaux, on peut dire que d'une certaine manière, l'inquiétude était déjà présente dans le premier d'entre eux. Me semble-t-il, en raison d'un aménagement technique,
oui,
tout à fait intéressant, c'est que les silences de la mélodie et les silences du rythme ne sont pas superposables. Et ça, ça donne un effet tout à fait étrange, finalement.
Vous voyez, Alain, ce qui est merveilleux, c'est que j'ai préparé cette émission, vous n'en saviez pas vous-même le contenu. Et là, vous venez de toucher du doigt les choses que nous n'avons pas pu préparer, parce que c'est des choses qu'on ne peut pas préparer. Et finalement, il y a quelque chose, il y a quand même la manifestation d'un immense mystère. Moi, c'est ça qui me frappe, et que c'est au niveau où nous en sommes là dans notre conversation, nous manipulons des choses, c'est-à-dire nous évoquons des choses dont on ne peut plus parler. À un moment, le langage s'arrête, et il faut laisser place à la musique. Alors je vous propose d'écouter donc l'œuvre en entier, ce solo, n'est-ce pas, et peut-être qu'il nous servira de générique, mais je souhaiterais que notre amie Françoise Cordet puisse m'accorder juste un petit temps pour pouvoir lire un petit texte. C'est un auteur que vous adorez. C'est un auteur que vous m'avez fait vous-même découvrir. Alors, vous rendez compte. Il s'agit d'Au cœur des ténèbres. Il y a un petit passage de Conrad qui remonte le fleuve, qui se perd dans la jungle, et il dit, écoutez, c'est ça. Remonter ce fleuve, c'était comme voyager en arrière, vers les premiers commencements du monde, quand la végétation couvrait follement la terre et que les arbres étaient rois. Un cours d'eau vide, un grand silence, une forêt impénétrable. Il y avait des moments où le passé vous revenait, comme il fait parfois quand on n'a pas un moment à perdre sur soi-même, mais c'était avec un aspect de rêve agité et bruyant, remémoré avec étonnement, parmi les réalités accablantes de ce monde étrange, de plantes, d'eau et de silence. Et cette immobilité de la vie ne ressemblait nullement à une paix, c'était l'immobilité d'une force implacable, appesantie sur une intention inscrutable.
Jolie phrase proustienne.
Merci alors.
Thank you.
American Blue s'achève, George Paczynski ramasse ses notes avec mélancolie. Le plus discret des pilotes de console devient lui-même un apôtre du silence. Françoise Cordet fixe l'ombre du soir en pensant aux jours enfuis. Et moi, j'ai oublié jusqu'à mon nom. Allez, bonne nuit tout de même. À dimanche prochain.
Merci Alain.